Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage top, celui d'Elodie. Elodie, elle est maman de deux enfants et elle est ce que l'on appelle une famille nomade, puisque Elodie a fait le choix de vivre en camping-car, donc avec ses enfants. Évidemment, ça pose plein de questions, évidemment, ça suscite notre curiosité, on a envie de savoir comment on vit en camping-car avec deux enfants en bas âge, et puis les questions de logistique, et puis l'école, et puis tout ça, comment ça se passe. Donc on écoute Elodie, puis après nous serons avec une psy, Aline Nativelle Id Amou, et c'est Marie Perarnaud qui mène l'interview d'Elodie. C'est parti.
Et oui, on va voyager ce matin avec votre histoire, Elodie, parce que vous allez nous emmener loin, loin, loin en Australie. Alors, vous êtes la maman d'Adam, qui a 10 ans, et de Simon, qui a 7 ans. Et vos enfants vous sont nés en Australie, pays où vous êtes expatriée depuis 10 ans avec votre mari. C'est bien cela. Alors, en 2020, vous avez décidé de plier bagages et de partir visiter justement ce magnifique pays avec votre famille en caravane. C'est pas rien. Alors, vous allez nous raconter justement cette aventure avec des rencontres, de partage en famille et de très jolis moments, parce qu'on a de la belle photo, je peux vous le dire, chez vous, vous allez vous régaler. Alors, en 2020, vous étiez donc installée à Brisbane, qui est une ville de la côte est australienne. Et vos enfants avaient 8 et 5 ans. Et donc là, la pandémie arrive, comme chez tout le monde, en mars. C'est ça. Et votre vie, évidemment, comme la plupart des gens, va tourner au ralenti. Et vous décidez, c'est un petit peu le déclic pour vous, celui de changer de vie. C'est ça.
C'est complètement ça, oui. Ça faisait des années qu'on travaillait en tant qu'entrepreneur avec mon mari. Ouais. On travaillait énormément, beaucoup. Et bah, la pandémie arrive et bah, du jour au lendemain, comme pour tout le monde, plus d'école, plus de travail et 10 semaines de confinement à la maison. Et ce qui aurait pu nous faire peur, finalement, a été une véritable réalisation de... on aimait ça, on aimait cette vie au ralenti, on aimait cette vie de famille. Et on s'est posé avec mon mari et on a pris la décision qu'on ne pourrait pas retourner à notre vie d'avant, qu'on préférait largement celle-ci. Alors, on a pris plusieurs décisions. La première a été d'acheter une caravane pour la fête des mères. Pour rénover, une vieille caravane à rénover, qui était à la base pour nos vacances et nos week-ends. Et puis, on a décidé de tout vendre et de se séparer de la grande maison dans laquelle on habitait depuis 5 ans.
Caravane de 9 mètres carrés, je précise.
C'est ça, oui. Et pour une maison qui était beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, on est parti sur des projets immobiliers pour construire une maison toute petite et en autonomie globale. Ouais. Et puis, les projets immobiliers sont tombés à l'eau, sauf qu'on n'avait plus de maison. Donc, du coup, on a pris la décision de partir avec cette caravane pour quelques semaines à la base.
Donc, ça, c'est vers octobre 2020, donc suite à cet été pandémique, que vous décidez donc de laisser l'école, vos affaires, vous le disiez, et puis de partir. Comment est-ce que vous vous organisez concrètement? Parce qu'on a tout revendu, on a pris la caravane, on est parti. Ça a l'air très simple en vous écoutant, mais j'imagine que c'est une sacrée organisation.
Alors, la première prise de décision a été d'un point de vue financier, oui. Comment on allait garder nos revenus. On travaillait depuis plusieurs années avec, à la tête de plusieurs entités, dont une start-up qui cartonne en Australie, et on a décidé de réorganiser notre façon de travailler et de garder principalement un business qui existe maintenant depuis plusieurs années et qu'on a automatisé au fur et à mesure des années, donc qui nous permet aujourd'hui de travailler que tous les deux avec mon mari et surtout de moins travailler pour un salaire quasiment équivalent. Et puis de réorganiser notre façon de dépenser. Le gros de notre vie nomade aujourd'hui, c'est qu'on dépense beaucoup moins. On a beaucoup moins d'achats, on est vraiment dans une dynamique de déconsommation. Oui. Donc ça a été vraiment le gros pour pouvoir partir. Et ensuite, il y a eu le tri des affaires.
Ça, j'imagine. Avec les enfants, ça doit être hyper pratique et très facile.
Ça a mis du temps. On était dans une dynamique de déconsommation depuis de nombreuses années, donc d'avoir de moins en moins. Mais c'est vrai que de passer d'une grande maison à une caravane, ça a mis du temps. Même quand on est parti avec la caravane au départ, 9 mètres carrés étaient surchargés. On en avait partout. On mettait énormément de temps à s'installer, à repartir.
Vous avez écrémé au fur et à mesure, j'imagine.
Voilà. pour avoir de moins en moins. Et on n'a vraiment plus beaucoup, mais on a gardé l'essentiel.
Alors au quotidien, ça se passait comment au départ? Parce que j'imagine que quitter un rythme voilà, bien ordonné, entre on se lève le matin, on va à l'école, et puis se retrouver là, tout d'un coup, tous les quatre en autonomie, ça a dû être difficile aussi de se réorganiser.
Surtout qu'au départ, on a voulu reproduire la routine de la maison dans la caravane. Et ça, c'était clairement pas possible parce que 9 mètres carrés, donc faute d'espace, c'était pas possible de faire l'école et de travailler en même temps. C'était pas possible d'être quatre dans la cuisine pour cuisiner. Donc ça a vraiment demandé un temps de réorganisation. Et puis, on n'était pas en vacances non plus. Donc au début, on était un petit peu à la coulée douce. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait retrouver une routine. Ouais. Une routine propre à la caravane qui nous permette d'être efficace le matin, de faire l'école, de faire le sport, d'avoir des repas à heure à peu près régulière. Mais voilà, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on a une routine propre à cette vie et une routine bien différente de la vie d'avant.
Et alors, il y a énormément de parents qui vont se demander comment est-ce que vous arrivez justement à conjuguer l'école à la maison, à la caravane, et puis justement, voilà, votre rythme quotidien, votre travail à vous, parce que ça ne doit pas être évident de réussir à les faire bosser quand même un certain nombre d'heures par jour.
Ça demande du temps, ça aussi, c'est certain, ça demande de l'adaptation. Ça va faire quasiment 2 ans qu'on est en école à la maison. Les enfants ne sont jamais retournés à l'école suite au confinement. Ça a vraiment été une révélation qu'on voulait continuer cette instruction en famille. Au tout début, je crois qu'on les faisait trop travailler. On voulait vraiment reproduire le schéma de l'école à la maison et ce n'était pas possible. C'était contre-productif pour eux, pour nous. Aujourd'hui, l'école, ça se résume à des blocs de 20 minutes, 20 minutes de concentration des enfants. Donc, on en fait 2 ou on en fait 3. On passe 1 heure maximum par jour. Et puis, après, on est très flexible. Si les enfants n'ont pas envie un matin, si nous, on n'a pas envie, ou si on a autre chose à faire, on ne fait pas. Et puis voilà.
J'imagine qu'autour de vous, la nature se prête aussi à de nombreux apprentissages.
Le voyage est complètement enrichissant. On est dans un programme Home Education qui est l'équivalent de l'IEF. Mmh. Donc, on se concentre principalement sur l'anglais et sur les maths. On a un rapport annuel à envoyer pour montrer l'évolution des enfants. Mais le voyage complète tout ça et répond à la curiosité et à la soif de découverte des enfants par la culture, l'histoire, les sciences, les rencontres.
Comment vous choisissez vos itinéraires? Est-ce que c'est au petit bonheur la chance? Est-ce que c'est un guide?
Au départ, quand on est parti il y a un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant, on voulait tout faire, tout voir tout de suite et on conduisait énormément, on ne prenait pas le temps. On est arrivé en Tasmanie, qui est l'île au sud de l'Australie, et ça nous a permis de ralentir et vraiment se poser et de décider que si on voulait rester plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un même endroit, juste pour prendre le temps ou pour découvrir, on pouvait. Aujourd'hui, le choix de l'itinéraire, l'Australie, c'est gigantesque. Donc, on choisit notre itinéraire suivant les envies, suivant la météo, suivant ce qu'on a envie de faire, avec un point vraiment commun à la famille qui est la nature et les animaux. Donc, à chaque nouvelle randonnée, chaque nouvelle découverte qu'on veut faire, on y va. Oui. Ça nous a permis d'avoir de très belles rencontres en famille avec les animaux.
Belle chose, oui. Vous faites envie à tout le monde. Voilà.
On a nagé avec les lions de mer pour l'anniversaire d'Adam l'année dernière. On a passé une journée dans un refuge pour kangourous et les enfants ont pu donner le biberon à des jeunes kangourous qui n'avaient plus de maman. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait du kayak avec des dauphins, des tortues.
Toujours dans une démarche en plus très respectueuse.
Toujours très proche de la nature. Les enfants ont un amour inconditionnel pour les serpents et les crocodiles.
C'est étonnant.
Je ne partage pas toujours. Mais
en Australie, vous devez être servie.
Voilà. On a des belles photos de Simon qui avait 6 ans avec un serpent autour du cou qui est deux fois plus grand que lui. Donc voilà, c'est merveilleux. On a vu des koalas. C'est vraiment ce qui rythme notre quotidien.
Il y a des souvenirs quand même qui s'ancrent plus qu'encore du matériel. Ça va vraiment avec votre nouvelle façon de vivre. C'est que ces souvenirs emmagasinés vont rester pour toujours.
pour toujours. Et puis au-delà des rencontres animales, je crois que nos plus beaux souvenirs sont les randos. On a fait énormément de randos en famille. J'ai le souvenir d'une rando en Tasmanie où c'était aux trois mois du début du voyage. On est parti 2 jours en bivouac avec les sacs à dos et planté la tente avec les enfants. Et je crois que là, on a réalisé qu'on avait la chance de pouvoir le faire et de pouvoir le vivre en famille. Des merveilleux souvenirs, il y en a plein. On est des amoureux des levées de soleil. Alors, les réveils.
Se lever tôt.
Voilà, ce que j'allais dire, les réveils matinaux pour faire une randonnée, pour arriver en haut de la montagne, pour observer le lever de soleil, on en a plein. On a traversé le désert australien du sud au nord. Ça nous a pris quasiment 2 mois de désert rouge à aller à la rencontre de la culture aborigène. C'était riche, c'était magique. Voilà, on a conduit au point le plus au nord de l'Australie, c'est à peu près 3000 km de piste de sable rouge. Alors là, on n'a pas emmené la caravane.
Ça aurait été complexe.
Voilà, notre vieille caravane n'y va pas, mais on y a été avec la voiture et une tente de voiture. On était à 15 heures de la première ville, entourée de sable rouge et de forêts verdoyantes.
Hors du temps.
Voilà.
Il y a quand même des galères. Là, on dresse un tableau vraiment idyllique, des photos superbes. J'imagine que ça ne se passe pas en petites galères ou plus ou moins grosses.
Des petites galères, on en a plein. On les raconte souvent sur les réseaux. Voyager avec une caravane de 1986,
c'est risqué. Faut être bricoleur. Voilà.
Guillaume est devenu pro du bricolage de dernière minute sur le bord de la route. Donc on a eu plein de casses. On a eu des embourbages. On s'est embourbé en plein milieu du désert, sans réseau, juste tous les quatre. On a mis plusieurs heures. On n'avait pas le choix.
On
s'est dit go, on y va, on met les mains et on a mis plusieurs heures à désembourber la caravane. On a eu des gros couacs aussi. On voyageait avec une chienne, une border collie, qui a été intoxiquée par une plante toxique au nord de l'Australie. Donc on l'a perdue en quelques jours. Ça a été un déchirement pour la famille. Ouais. Et puis, Guillaume a eu une intoxication alimentaire. Il a passé 2 jours, 1 nuit à l'hôpital, quelque part sur la côte Est.
Oui, donc, il y a quand même des moments difficiles, heureusement contrebalancés par un quotidien qui est quand même...
De toute façon, le voyage n'est pas sans risque. C'est comme la vie. Et puis, on concentre tellement de kilomètres, d'heures de route, d'expérience au quotidien qui est... Voilà, le risque zéro n'existe pas.
On est d'accord. Alors, après plus d'un an à traverser l'Australie, en novembre dernier, votre grand-père est décédé, donc vous décidez de rentrer en France. Alors, une fois sur place, vous ne vous arrêtez pas, vous achetez un camping-car et vous décidez de redécouvrir la France. L'aventure recommence ici.
Oui, suite à cette mauvaise nouvelle, on a réussi à obtenir une dérogation pour sortir de l'Australie et arriver en France pour quelques mois et profiter de la famille. Après 1 an et demi de vie nomade en Australie, on s'est dit une vie sédentaire, même 6 mois en France, ça ne va pas le faire. Oui. Donc on a acheté le camping-car. C'était magique. Oui. On ne l'aurait pas fait en hiver et finalement, c'était absolument incroyable de pouvoir aller dans le Jura, en Savoie, d'emmener les enfants à la neige pour la première fois, skier avec les enfants. Et puis on a fait un joli tour on est passé par la Suisse, par l'Alsace, et on a fait un joli tour de France, à peu près 10 000 km. On est descendu par l'Auvergne, on a fait le sud, on a traversé par Carcassonne, Toulouse, et on a remonté toute la côte atlantique jusqu'à la Bretagne, les châteaux de la Loire.
Magnifique.
Et c'est une belle expérience en tant que Français de redécouvrir la France.
Son propre pays, finalement.
Et de partager ça avec les enfants et de pouvoir découvrir une culture, une histoire, une tradition, une variété culinaire. Et je crois que les enfants apprécient notre vie depuis toujours. Ouais. Mais ce voyage en France a été une révélation pour eux, confrontés aux cousins, à la famille. qui repartait au travail ou à l'école le lundi matin. Là, ils ont réalisé qu'on avait une vie particulière, une vie unique. Ouais. Et ils nous disent souvent qu'ils se sentent chanceux de nous avoir au quotidien et de faire les choses à quatre.
Merci beaucoup Aline Nativelle-Idamou. Vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes auteure de La charge mentale des enfants quand nos exigences à nous, j'imagine, les épuisent aux éditions Larousse. Alors, on l'a vu dans le témoignage d'Élodie, partir à l'aventure avec ses 2 enfants. Alors, elles ont rencontré d'autres cultures, des animaux, la nature, ça semble avoir des côtés extrêmement positifs. Alors, évidemment, il y a des bons côtés que vous allez nous lister et puis il y a forcément des petits points négatifs qu'on va rencontrer, j'imagine.
trouve qu'Élodie a fait un beau témoignage hein, sur les aspects positifs, c'est-à-dire le côté curiosité, développement de différents types d'intelligence, que ce soit émotionnel, relationnel, culturel. Donc effectivement, puis aussi les liens familiaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Je pense que c'est vraiment les bénéfices les plus positifs de partager du temps en famille, de mieux connaître aussi ses enfants, concrètement. Et puis pour les parents, c'est aussi créer des liens différents, mais aussi pour les enfants, de voir les parents sous un autre jour, et surtout d'être en lien avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres langues. Ça forme plein d'expériences qui peuvent être très, très atypiques ou merveilleuses, avec effectivement quelques couacs possibles, mais qui font aussi partie de la vie et qui sont aussi importantes à vivre pour certains enfants.
Les couacs, les côtés négatifs, c'est quoi alors ?
Ça pourrait être, comme on l'a dit, hein, le problème de la voiture ou effectivement avoir des difficultés à comprendre l'autre quelquefois. En fait, ça éveille toutes les capacités d'adaptation.
Mais je veux dire, d'imposer ses choix, parce qu'on les impose quand même aux enfants, ça peut poser problème quand les enfants ont 8, 10 ans, 12 ans, qui, bon, ils n'ont pas forcément envie d'aller avec nous en camping-car.
On essaye d'argumenter, on essaye de vendre le projet familial, on les implique au maximum pour qu'ils se sentent aussi acteurs et qu'ils ajoutent 2-3 petites touches aussi personnelles. Souvent, ils sont plutôt partants. Après, effectivement, il faut être toujours dans une forme de vigilance et d'observation des réactions de son enfant au fur et à mesure aussi de son âge et de ses besoins, concrètement.
On a reçu plein de questions pour vous ce matin, notamment une d'une maman qui est actuellement en plein voyage avec ses enfants au Nicaragua. Regardez la question vidéo de Marie-Caroline.
Bonjour la maison des maternelles. Alors, moi, je vous explique, on voyage pendant 2 ans en camping-car avec nos 3 petits garçons de 8 ans, 4 ans et 2 ans. Et je me pose la question de comment ça va se passer au retour en France. Est-ce qu'ils vont pas être un peu blasés car un jour, ils vont voir des tortues, un autre jour, ils vont à l'océan, ils voient des buffalos, ils voient même des singes. Comment ça va se passer le retour? Est-ce que ça va pas être trop difficile? Est-ce qu'ils vont pas trouver tout ça très fade à côté de ce qu'ils ont vécu? Merci la maison des maternelles.
Ils vont voir des pigeons en rentrant.
Oui, ils vont voir d'autres espèces.
Un canard.
C'est ça. Bien. En fait, ça, c'est souvent la projection des peurs des adultes. Donc, il faut essayer de relativiser. Puis après, son enfant va se réadapter, comme l'adulte aussi. On est toujours dans un petit mouvement, on le soutient, on l'accompagne, on prend en compte ses émotions. Et puis, en règle générale, ils ont des très bonnes capacités d'adaptation. Et puis, si à un moment donné, ils ont un retour sur « je m'ennuie », des choses un peu comme ça, il faut aussi l'accueillir, concrètement.
En fait, l'ennui, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Pas du tout. Se rappeler pas ça. Du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Lola nous dit « Mon mari va peut-être avoir une opportunité de travail au Danemark et nous allons devoir nous expatrier. Comment préparer et expliquer ce changement de vie à notre fille qui a 9 ans ?»
En l'impliquant. Au maximum, en parlant du Danemark. Pourquoi pas faire un premier séjour touristique au Danemark, en commençant à cuisiner un petit peu ce qui peut être local là-bas. Voilà, peu importe l'âge de l'enfant, il faut essayer de l'impliquer. Lui montrer des photos, essayer de voir un petit peu ce qui pourrait lui faire peur, ce qu'il aurait envie de faire là-bas. Et au fur et à mesure, les enfants sont souvent très réceptifs aux nouvelles découvertes, aux nouvelles expériences.
Marie, vous êtes allée avec vos enfants au Danemark, c'est complètement adapté,
c'est
non ?
Hyper kids-friendly.
Ouais, c'est ça, c'est formidable.
De déménager au Danemark.
Alors là, une question de Rachel qui rejoint ce que disait Benjamin tout à l'heure. Elle dit « Nous allons devoir déménager à l'étranger au moins 2 ans. Ça provoque des conflits avec notre ado de 15 ans. Mais en même temps, avec les ados, j'ai envie de vous dire, tout est un peu matière à conflit. Comment désamorcer la crise alors qu'il ne veut pas quitter ses amis ?»
Bah oui.
Ah, ça, c'est difficile. Effectivement, la question adolescente, c'est vrai qu'ils sont un peu plus difficiles à...
S'expriment plus
librement. Oui. Et puis, les émotions négatives sont un peu plus présentes. Bon, en même temps, c'est pareil, il faut essayer de l'impliquer, essayer de comprendre aussi comment il pourrait garder du lien, comment on pourrait aussi inviter les amis à venir dans le nouveau pays, etc. En fait, c'est toujours essayer de lui dire qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, il y a toujours un maintien du lien possible et qu'il ne serait pas contre ce que les copains viennent pendant les vacances scolaires, etc.
Et voir les aspects positifs, vraiment lui montrer tous les aspects positifs de cette aventure en famille, quoi.
Tout à fait. En fait, il faut essayer de vendre le projet familial et de l'inclure au maximum, peu importe son âge, de toute façon.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi lui dire la vérité? C'est-à-dire, je comprends que tu sois dégoûté.
Bien sûr.
Mais tu les retrouveras. Enfin, je veux dire, il faut respecter ses émotions négatives. Ah, comme
bien sûr, il faut les valider. Il a le droit de ne pas vouloir. Il a le droit de dire, vous m'imposez, je ne suis pas content.
À 15 ans, ça aurait été l'enfer qu'on m'a dans ça. Je pense comme beaucoup de monde. Enfin bref, on ne parle pas de moi. Laura, nous envisageons... Ça, c'est mon côté Agathe Le Caron, parce que je suis assis à sa place. J'espère qu'elle n'entendra pas ça. Nous envisageons d'acheter une caravane pour partir sur les routes avec nos fils qui ont 13 et 8 ans. Comment gérer le respect de l'intimité de chacun?
Il va falloir essayer, expérimenter, tenter et effectivement peut-être pas refaire la même chose qu'on pense comme on fait à la maison sur la question des rituels. Elodie l'a très bien dit. Voilà, il va falloir expérimenter.
Elodie, elle dit que ça a pris 3 mois à peu près.
C'est ça, à peu près.
Géraldine vous dit, mon fils de 12 ans ne se plaît pas du tout depuis que nous avons déménagé aux Pays-Bas. Il devient mutique et se renferme sur lui-même. Comment l'aider ?
Bah, il faut être à l'écoute, essayer de comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Et peut-être qu'il a déjà verbalisé certaines choses et qu'on est passé à côté en tant qu'adulte, c'est possible. Ne pas nier non plus qu'il puisse mal vivre ce changement. Et puis c'est essayer de voir un petit peu ce qu'on peut lui proposer comme solution pour, ou réaménagement dans sa vie scolaire, sa vie d'enfant. Lui proposer des solutions, mais qu'il soit aussi acteur de qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour t'aider. Et puis après, si vraiment il y a d'autres symptômes, ne pas hésiter à consulter un expert de l'enfance pour essayer de l'accompagner aussi par rapport à son vécu psychologique et émotionnel.
Nous sommes nomades depuis 7 mois et notre fils de 10 ans ne se fait pas de nouveaux amis et ne voit plus les anciens. Du coup, est-ce qu'il peut en souffrir et comment l'aider ?
Alors effectivement, il peut en souffrir. Après, il faut voir un petit peu ce qu'il ressent et comment il pourrait créer des nouveaux liens et comment nous, en tant qu'adultes, on peut l'aider à le faire. Et puis aussi le maintien des liens avec les anciens copains. Donc ça peut être passé par des réseaux sociaux, ça peut être passé par le téléphone, par la visio ou même un carnet de voyage ou l'envoi de cartes postales, pourquoi pas, passer par de l'écrit pour maintenir du lien avec les copains qui existaient avant. Et pour les nouveaux, c'est d'essayer d'encourager son enfant à aller vers les autres enfants le plus possible, sans le forcer, évidemment.
Alors, le fait d'être nomade, c'est pas évident de se faire des amis, puisqu'on bouge tout le temps.
Oui, mais c'est justement lui expliquer que sur le moment, il faut essayer, sur l'instant présent, de créer du lien, du jeu avec d'autres enfants, et qu'il y aura peut-être aussi l'envie de garder un lien avec cet enfant-là au fur et à mesure des étapes de son voyage. Pourquoi pas ? Et que ça peut créer du lien sur, pourquoi pas, se revoir pour des prochaines vacances, éventuellement. Si c'est un enfant, je ne sais pas, qui vit en Afrique et qui a un bon lien qui se crée, pourquoi pas après lui proposer de venir en France sur un séjour. Voilà. Il y a des parents aussi qui vont créer des liens. Concrètement, il y a des familles qui peuvent créer du lien et après, ça peut devenir des belles amitiés.
Justement, Karim, vous avez grandi au Cameroun.
Oui.
C'est arrivé en France à l'âge de 18 ans.
18 ans.
Donc, grand ado.
Grand ado, je n'avais jamais quitté mes parents, ouais. J'avais toujours voyagé avec eux, et c'était la première fois que je venais, que je partais comme ça seul. Mais je suis venu en France parce que j'étais amoureux.
Ah.
Oui, c'est une longue histoire.
On y vient.
Oui. On a du temps.
mais ce qui est vraiment, ça m'a ouvert les yeux, ouvert le cœur, ouvert à énormément de choses. Il n'y a rien de mieux que rencontrer plein de cultures comme ça. Bon, là, j'ai la chance que j'étais déjà ado. Et je pense que commencer ça encore plus tôt, c'est génial. Il n'y a rien de mieux comme ouverture.
Et par rapport à la période où vous êtes venu, il y a les réseaux sociaux, il y a la possibilité de s'appeler tout le temps, se donner des nouvelles. Je ne dis pas que vous êtes vieux.
Si,
je dis que c'était une autre époque.
Si, c'était il y a 30 ans. Rendez compte.
Et quel âge ?
J'ai 48 ans.
48 ans ? Oh là là, sur le Minitel.
Dis-le, Vezé.
Oui.
Tiffany vous demande, quels signaux doivent inquiéter quand un enfant ne semble pas s'adapter à un changement de vie ?
C'est tous les signaux en lien avec l'humeur, les émotions, le repli sur soi, et puis surtout quand un enfant ne joue plus. C'est vraiment un signal important. Peu importe son âge, d'ailleurs, on le sent assez rapidement quand un enfant est un peu en perte de joie de vivre, d'interaction, etc. Après, il ne faut pas en avoir peur, il faut oser aller en discuter avec son enfant, c'est aussi très important pour faire le point sur ce qui ne va pas. Donc, toujours ne pas nier ce qu'il peut ressentir. Il a le droit de ressentir des émotions positives, du vide, du manque aussi, de la vie d'avant ou des copains, de papy, de mamie. Ce qui est légitime, hein, ce que certains adultes vont aussi vivre pendant leur voyage, concrètement.
Alors, Johanna vous dit, depuis notre déménagement en Allemagne il y a un mois, j'ai l'impression que mon enfant de 6 ans régresse, se comporte à nouveau comme un bébé, il fait pipi au lit, est-ce que c'est normal ?
Ça peut l'être, ça marque quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est sa façon à lui de le dire. Pareil, on prend le temps de l'accompagner, d'essayer de comprendre, de passer par du dessin, du jeu, pas forcément 20 000 questions pour savoir ce qui t'arrive, mais concrètement, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'arrive pas forcément à verbaliser ou à montrer d'une autre façon. Mais tout ça, on peut rapidement trouver des solutions, mais si en tant qu'adulte, on peut y faire face, tout simplement, et qu'on ne mette pas ça sur le compte d'autre chose.
Cette question de Daphné, est-ce qu'un enfant qui a eu une vie nomade aura tout le temps envie de bouger ou saura-t-il se poser, rester sédentaire quand ce sera nécessaire ?
Ce sera en règle générale des adultes qui auront un élan pour le voyage, pour la curiosité intellectuelle, pour la relation à l'autre. Après, on ne peut jamais rien prédire, hein, concrètement. C'est aussi la question de rencontre de vie, d'expérience de vie. Donc, mais en règle générale, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est là et puis une envie encore de poursuivre parce que le monde est vaste, concrètement. Donc il y a quand même beaucoup de choses encore à découvrir qu'on n'a pas pu faire en tant qu'enfant ou ado, concrètement.
Paul vous dit, notre fils de 12 ans vit avec nous en Grèce depuis 7 ans. Il refuse de parler français comme avant. Un enfant peut-il rejeter sa culture de naissance et comment gérer cet entre-deux ?
Alors, tout dépend de son âge, tout dépend aussi de son moment de vie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, la langue française ? À quoi ça correspond ? Ça veut dire qu'il s'est aussi très bien adapté à cette nouvelle culture, que pour lui, c'est une part identitaire aussi. Donc, pareil, on le laisse le temps, ça peut être une petite phase, et puis après, il sera très fier, éventuellement, de parler cette langue. Voilà, après, il faut toujours être dans une dynamique de questions des origines, de l'histoire, de la famille, etc. Et puis, petit à petit, ramener peut-être des activités françaises pour l'amener à se décoincer, peut-être, sur ce petit blocage, où c'est juste une affirmation de soi, concrètement. Là, il y a plusieurs interprétations qui sont possibles.
Il peut oublier le français ?
Alors, oublier, je ne suis pas convaincue qu'on puisse oublier. On peut le mettre de côté, mais effectivement, il y a la question des origines, de ce qu'on est, de l'identité qui est là. On peut perdre, quelquefois, du vocabulaire, etc. Mais en règle générale, quand on se remet en situation dans le pays, etc., ça revient. C'est quelque chose d'ancré.
Marina vous demande, est-ce qu'un bébé de 12 mois peut être perturbé, stressé lorsque sa famille déménage dans un autre pays ?
Alors, il pourrait l'être à cause, entre guillemets, de la gestion des adultes, on va dire.
Des éponges.
Voilà. Mais pas plus que, ou pas moins qu'un autre enfant. Ce n'est pas forcément l'âge. Le plus important, c'est comment l'ambiance qui est créée autour de ce projet, de ces changements. Donc, entre guillemets, la responsabilité des adultes, même si on a le droit d'être stressé en tant qu'adulte, bien sûr, par de la nouveauté.
Moi, j'aurais dit que c'était plus simple, finalement, de voyager avec un petit avant l'école primaire.
Les enjeux sont pas pareils, oui. Effectivement, avant l'école primaire, il y a les copains, souvent, il y a la vie sociale qui est installée, il y a le sport, enfin, il y a tous les rituels.
Il y a l'école, vraiment, bien sûr. Les cours à suivre à distance, quoi.
On pourrait dire que sur certains aspects pratiques de la vie de tous les jours, ça peut être effectivement plus simple, concrètement. Et puis, un petit bébé a peut-être moins cette possibilité aussi d'expression, de dire « je veux pas, j'ai pas envie ».
Merci beaucoup Aline Nativelle-Idamou et merci à Elodie d'avoir accepté de se raconter avec Marie-Père Arnaud. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux ou en podcast. Ciao tout le monde.